Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler musique. C'est fréquent dans les programmes de Divergence, c'est une première dans cette émission. L'occasion, les 45 ans du JAM, le Jazz Action Montpellier. Pour nous en parler, et pour apporter une compétence que je n'ai pas, et pour exercer ma curiosité, j'ai invité Jean-François Fontana, son président depuis 1998. Jean-François Fontana, bienvenue au micro de Divergence.
Bonjour.
Votre attrait pour la culture, le jazz, nous allons en parler, ne date pas d'hier. Et comment est née cette passion pour ce genre musical? Comment s'est-il développé?
C'est très simple. Je suis né en Algérie. À l'époque, il y avait donc Radio Alger. Et puis, il y avait donc des décrochages d'émissions qui venaient de Paris. Et il y avait une émission sur le jazz qui s'appelait le Hot Club de France.
Alors, c'était
très limité en style, mais ça m'a ouvert les oreilles vers le jazz.
Et ces oreilles grandes ouvertes, ensuite, ont beaucoup servi dans les années qui ont suivi.
Absolument.
Alors, première initiative qui a donné corps à cette passion, en 1979, vous créez le café-théâtre Le Doyen, situé rue du Grand-Saint-Jean, les anciens Montpellier ont connu, et dévolu, à la fois au théâtre et au jazz. Vous avez alors 32 ans, sauf erreur. Pourquoi Le Doyen?
Alors, Le Doyen, d'abord parce que ça s'appelait Le Doyen,
c'était un
café, c'était une des plus vieilles licences de 4 de Montpellier. Et ça avait l'avantage d'avoir un sous-sol qu'on a pu aménager en café-théâtre.
Très bien. Alors pendant 5 ans, vous conduisez ce lieu actif dans l'offre culturelle d'alors, puis vous en restez propriétaire pendant 5 ans, alors que Le Doyen programme plutôt du rock. Ensuite vient une période radio. Alors vous avez fait vos premières armes en radio à Paris, à Radio France. Qu'y avez-vous fait?
Pendant 5 ans, je suis rentré comme beaucoup de cachetier en tant qu'étudiant, donc j'ai tout fait, je répondais au téléphone, on faisait les droits d'auteur, etc. Et puis je me suis accroché, on m'a proposé de faire une revue de presse pour une des personnes du cabinet du président qui s'était cassé une jambe, c'est la vie.
Heureux accident.
Et j'y suis resté, donc en travaillant à la production, j'ai travaillé à FIP, etc. J'ai mis le pied à l'étrier comme ça.
Donc une espèce de culture transversale de ce qu'est la radio.
Absolument.
D'accord. Alors, retour à la radio, donc, après Le Doyen, en 1984, à Radio France Héros, qui s'appelle aujourd'hui France Bleu Héros. Vous faites partie de l'équipe de démarrage de la station, où vous concevez et animez des émissions jusqu'en 1987. Ensuite, vous orientez, on en dit un mot, vers des fonctions dans la communication publique. C'est comme ça que nous sommes connus, au sein de collectivités locales et d'organismes publics. Voilà 26 ans que vous présidez le JAM. Avant que nous en parliez, racontez-nous votre Montpellier. Et d'abord, quels sont les lieux à Montpellier auxquels vous êtes attaché, que vous appréciez? Alors, les plus connus.
Oui, en fait, j'ai eu deux vies à Montpellier. Une assez courte. Je suis arrivé en juin 62. Je ne sais pas si ça dit encore quelque chose.
Oui, on voit la vague arrivant de l'autre côté de la Méditerranée.
Moi, je dis le wagon des pieds noirs, mais c'était ça. Mais ça a été, au niveau urbanistique, une des premières claques qu'a pris Montpellier, puisque... Depuis, avec le recul, on appelle cette période, on disait Montpellier, c'est la belle endormie, donc une petite ville.
Elle s'est réveillée avec l'arrivée des pieds noirs.
Alors, au niveau urbanisme, on ne peut pas dire que ce soit une grande période esthétique, puisqu'il a fallu construire pas cher et très vite.
Notamment.
Donc le Mas Drevon, le Maçon, les Aubes, etc., la Paillade, etc. Donc voilà, ça c'est mon premier passage à Montpellier. J'y ai passé mon bac au lycée Joffre, et puis je suis parti vivre d'autres aventures à Paris. Je suis revenu, comme vous l'avez dit, en 1979. Les lieux, Moi, j'habitais d'abord à Castelnau et j'avais un trajet qui me plaisait beaucoup, puisque à l'époque, on ne s'en souvient pas, mais il y avait déjà une piste cyclable entre Castelnau et Montpellier.
Probablement la première, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et donc, j'avais une mobylette et j'allais au lycée et j'adorais fouiner après dans les cussons. Donc, le passage autour de la préfecture, autour du ce qui est devenu le Musée Fabre, mais qui était...
Le Montpellier médiéval, quoi.
Voilà, oui, à pied. Mm. Et puis des petits points de repère. Pas encore les bistrots, mais des points de repère.
Ils sont venus après.
Oui, absolument.
Et alors, quand vous recevez des amis ou des membres de votre famille, alors vous habitez Lunel, mais vous êtes quand même à Montpellierin, donc des personnes de passage ici, que leur dites-vous de la ville ou plus précisément, en quoi Montpellier se caractérise? Est-ce qu'il y a un style Montpellier, quoi, Montpellier Touch?
Oui, alors je leur explique évidemment que c'est la ville administrative du roi de Louis XIV, mais souvent, ce qu'on fait, on se gare en Antigone, et on rentre et je dis, voilà, ça c'est les années 80.
Ouais.
Et puis on traverse le polygone, je dis, ah là, ça c'est les années 70. Et attention, au bout, on va arriver au 19e siècle, et après au 18e, et voir le 17e, quand on remonte.
Un parcours à la fois spatial et historique.
Voilà, mais inversement chronologique.
Très bien. Et donc, oui, par rapport à d'autres métropoles, comme on dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le, pour employer un grand mot, dans l'âme de la ville ou dans ce qu'elle porte en elle?
Alors, l'esprit du lieu, comme vous dites. Je pense qu'effectivement, on voit très bien la croissance. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé pour des collectivités publiques. Donc, j'ai suivi toutes ces grandes aventures d'Odysseum, de Port-Marianne, de cette avancée vers la mer. Et quand on passe le long de l'autoroute, maintenant, on voit bien qu'on y est. Ça continue à pousser avec une densité, ma foi, qu'il faut accepter, même si quelquefois ça paraît un petit peu beaucoup. Je pense que l'idée d'avoir des signatures d'architectes et d'avoir des points de repère scande bien la ville.
La recherche, au moins partielle, d'une qualité architecturale et
absolument.
Urbanistique,
oui,
c'est
oui,
ça
oui, tout à fait.
Très bien. Bon, mais écoutez, on va poursuivre. Et du coup, on en revient au JAM. Donc, vous n'êtes pas cofondateur du JAM, mais vous avez connu ceux qui l'ont créé. Alors, qui étaient-ils et quels étaient leurs objectifs au moment où cette idée a germé et s'est réalisée?
Alors, on revient donc à 1980. À cette époque-là, on est habitué maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années à ces grosses machines, ces gros festivals, Montpellier Danse, l'opéra, l'orchestre, le festival de Radio France, le cinéma tel qu'il est actuellement.
Le printemps des comédiens.
Voilà, le printemps des comédiens. Tout ça n'existait pas. Donc il y avait
parlait même pratiquement de désert culturel,
oui,
on veut le dire, avant
oui,
77.
Il y avait effectivement un théâtre municipal.
Les Tournées Carcenti.
Voilà, les Tournées Carcenti. Donc les jeunes, entre guillemets, musiciens, que ce soit des rockers ou des musiciens de jazz en l'occurrence, étaient en manque et
de lieux
simplement pour répéter, pour jouer. Donc il y a eu un groupe de musiciens qui s'est réuni en collectif et qui est parti à la recherche d'un lieu pour jouer, pour répéter, pour organiser des concerts et après répondre à la demande donc, d'organisation de cours de musique, ce qui était la préfiguration.
C'est parti d'un besoin avéré. Quoi,
oui, avec des groupes qui étaient dynamiques, comme à l'époque Kosianats, qui était du jazz à tendance occitane. Voilà. Donc Michel Mar, un petit peu plus tard Denis Fournier, Jean-Pierre Barreda, Gérard Pensanel, des gens qui continuent à être présents.
Qui ont marqué, je dirais,
absolument.
Et la période et les années qui ont suivi.
Et voilà. Et il faut aussi bien marquer qu'il y a eu l'oreille de Georges Fraîche, qui était député maire de Montpellier à l'époque, et qui a senti dans le besoin, une continuité.
Le pifomètre de Fraîche.
Voilà, le pifomètre, donc la première...
L'intuition, on va dire.
au niveau urbanistique, c'était intéressant aussi, puisque le premier local était aux anciens abattoirs, allait fermer.
Voilà. Alors, pour qu'on s'y retrouve, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le JAM, peut-être un petit sommaire, un gros grand, rappeler ce que c'est, bon, quelles sont les principales activités et la raison d'être, ou plus exactement, les raisons d'être du JAM.
Alors donc, la raison d'être originelle, je viens de la donner, et puis après, petit à petit, ça s'est structuré. L'originalité du JAM, c'est d'être à la fois une salle de concert de 350 places, 80 concerts par an, sur un rythme qui est maintenant un rythme installé depuis très longtemps, et une école de musique dédiée au jazz et aux musiques actuelles, sur des cursus qui se sont aussi installés, avec un côté pratique loisir. Je joue un petit peu de mon instrument, je voudrais me perfectionner ou faire
améliorer ma pratique.
Jouer avec d'autres aussi, c'est le jouer ensemble est important. Et puis la formation de professionnels, puisqu'on est maintenant un centre de formation professionnelle.
Agréé pour cette prestation.
Oui, absolument. Absolument, comme on dit, avec le label Calliope. Nous avons
Label Calliope. Alors, bon, voilà une idée générale, bien sûr, on reviendra sur tout ça.
Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de l'originalité, c'est qu'il y a deux endroits en France. Il y a Tours et Montpellier, qui ont à la fois cette entité, salle de concert et école de musique, et ça permet une fusion intéressante.
Alors, on m'a dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai, qu'il y avait une caractéristique du JAM, c'est qu'il n'y a que deux lieux en France de même stature, de même dimension, de même qualité, le New Morning à Paris et le JAM. C'est vrai, alors, ça?
Moi, quand je croise des musiciens qui vivent, bon, bien sûr, beaucoup en Île-de-France, et effectivement, quand vous allez dans les clubs historiques de jazz à Paris, c'est très inconfortable, en général, on ne voit pas bien. C'est cher, et s'il y a deux sets dans la soirée, si vous allez au premier, on vous jette à la fin du premier,
d'accord,
parce que c'est
terrible,
le soir. C'est comme ça, mais ce sont les historiques. Le New Morning est venu après, effectivement, c'est une salle un peu plus confortable. Et quand on se balade, effectivement, en France, on voit que le jam tient le haut du pavé.
Alors, on a déjà évoqué les lieux, et on va y venir pour rester dans l'esprit de cette émission, et cette espèce de fil conducteur qu'a souvent raconté nous Montpellier de s'intéresser à la ville dans ses profondeur, dans ses diversités. Alors, racontez-nous donc la trajectoire du JAM à travers les lieux qu'il a successivement occupés depuis 1980 et a commencé, j'ai appris, par le centre des rencontres de la route de Mende au 665, si mes souvenirs sont bons, qui a été le premier lieu où le JAM a posé ses pieds.
Oui, alors là, ce n'était pas bien sûr des bases permanentes, mais il fallait avoir des endroits pour commencer à jouer. Donc, il y a eu ce centre de rencontre via, à l'époque, c'était Manu Chevalier, le trompettiste Manu Chevalier,
qui avait
des contacts, qui est décédé
mois.
il y a un mois et demi à peu près, qui avait ça. Et puis après, il y a eu la possibilité d'être abrité ponctuellement à ce qui s'appelait le Théâtre Issaillon, qui accueillait essentiellement de la danse, qui est maintenant le Kawa Théâtre.
D'accord, mais c'était du côté de Rondelet, ça, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Ça hein. Voilà. Ça. Du côté de la Poste Rondelet.
Voilà, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il y a eu la possibilité de s'installer, puisque les abattoirs fermaient, et donc il y avait une démolition progressive programmée, de s'installer dans un des bâtiments de ces anciens abattoirs pendant 2 ans et demi à peu près, le temps que les démolutions se fassent.
Ça, là aussi, changement de lieu, il faudra la raconter ça un jour. Il y a un nom plus chic, un quartier des Beaux-Arts.
Oui.
Et alors, bien sûr, quelques vieux Montpellierins de notre espèce continuent à évoquer ces abattoirs.
L'anecdote intéressante, c'est que le lieu où était le JAM, maintenant il y a une rue qui traverse, et ça s'appelle la rue de la musique.
Après votre passage.
Oui, bien sûr.
Ça
oui,
montre l'empreinte, pour le coup.
Oui, comme c'était le quartier des Beaux-Arts, ce n'est pas non plus étonnant.
Ouais. Très bien. Alors, nouveau déménagement.
Alors, déménagement
du côté de la gare.
Par force, je sais qu'à l'époque, les musiciens disaient « Oh, jamais il nous mettra dehors ». Il, c'était bien sûr Georges Frêle, sauf que si,
pas
quand
si
même.
Pas
il fallait bien. Et donc, il a fallu chercher. Là, il n'y avait pas de position de repli, ni municipale, ni districale à l'époque. Donc, ils ont trouvé rue de la Méditerranée, enfin rue Henri René, exactement, dans ce qu'on appelle maintenant le quartier Méditerranée. À l'époque, on disait « derrière la gare », ce qui était un peu péjoratif. Et c'était une ancienne miroiterie. Voilà.
Ah, voilà. Alors, dernière étape de ce parcours, le quartier des Prés d'Arène, où vous êtes donc depuis...
Depuis 1995.
Ah oui, d'accord. Donc,
et il y a eu un an de travaux, quand même.
L'essentiel du parcours de
JAM
s'est fait.
Oui. Et là aussi, c'est la mairie qui a pu, dans une partie, un délaissé du domaine des Prés d'Arène, qui était... impacté par l'OPAC à l'époque, donc l'organisme de logement social qui construisait autour et qui ne savait pas trop quoi faire de ce bâtiment.
Qui était donc un bâtiment à usage industriel ?
Non, pas du tout. Justement, les Prés d'Arène, c'était une zone industrielle jusqu'à récemment, mais le lieu là, c'était l'écurie qui servait pour les chevaux de la gare de triage, qui est en face en fait. Ouais. Et tous les soirs, les chevaux allaient mettre les wagons et les locomotives dans le bon sens pour le lendemain matin.
Alors, l'adresse exacte, c'est 107 rue Ferdinand de Lesseps, pour ceux des auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas encore. Et un mot aussi pour finir ce parcours spatial. Vous avez noué des relations avec le quartier sous diverses formes.
Alors, oui.
Pourquoi et comment?
Pourquoi? D'abord parce qu'on est dans le quartier, ça c'est une bonne
mais
raison.
Vous pouvez ignorer
le quartier. On n'a pas de vocation d'équipement de quartier.
Oui,
il y a une médiathèque, il y a une maison pour tous. Mais petit à petit, d'abord le quartier s'est structuré. Il y a ce qui s'appelle le réseau d'acteurs. Il y a une trentaine d'associations à vocation culturelle ou socio-culturelle, etc. Il y a un conseil de quartier maintenant, on y participe forcément. Et puis le quartier est en pleine évolution. Il y a en plus la partie restante, c'est-à-dire de Tournesy jusqu'à
la partie des ferroviaires SNCF, qui est qui va être repensée avec un nouveau quartier,
bouger,
la
absolument.
Restante.
Et ça, c'est intéressant de voir comment la grève va prendre. On suit ça, effectivement.
Très bien.
Et le tramway aussi a fortement structuré le quartier.
Alors, chacun voit maintenant où est le JAM dans Montpellier. Alors, on va progresser. Au cours de 4 décennies et demie, donc, je vous épargne la lecture des chiffres. 20 000 artistes, c'est un arrondi, 10 000 élèves, des centaines de milliers de spectatrices et spectateurs, 4 000 concerts. Quels sont les concerts historiques, je dirais, les musiciens les plus marquants qui, de la création du JAM à aujourd'hui, par le passé, et on parlera du futur dans quelques instants, ont été accueillis aux gens. Qu'est-ce qui vous a marqué les uns et les autres, et qui est un peu une manière d'identifier ou de singulariser le JAM.
Alors, comme vous avez dit 4000, si je commence à faire la liste, on va y être pour un bon moment.
On va sélectionner.
Ben, c'est difficile. j'invite les gens qui ne connaissent pas le JAM à y venir. D'abord parce que le jeudi, les concerts sont gratuits, donc ça vaut le coup de venir jeter un œil. Et sur les murs, il y a une trentaine de photos. Et les musiciens qui sont sur ces photos ont joué au JAM. C'est une photo prise pendant le concert. Et chacun a une à deux pages dans les dictionnaires du jazz. Donc ça veut dire qu'il y a des pointures, comme on dit, au fur et à mesure du temps qui y sont passées, de jazz, mais pas que. Donc il y a eu des musiciens brésiliens, des musiciens africains. Michel Petrucciani a inauguré la salle actuelle des Prés d'Arène, effectivement. Après, on a eu des gens marquants qui sont revenus plusieurs fois, 4-5 fois, comme Josaoui Noul, qui était une des figures marquantes du jazz rock avec Weather Report à l'époque. Et puis, Paolo Fresu, qui est venu nous rendre visite plusieurs fois, Eric Truffaz, etc. etc.
Donc c'est lieu difficile de faire une liste. Français. C'est ça, en fait. Sur leur carte...
C'est plus que ça,
carte,
parce que...
Il y a Montpellier et JAM.
Les producteurs savent, et c'est ceux qui font venir, les Américains ou les Allemands, enfin les Européens, on est sur leur agenda, bien sûr.
Alors, la saison 2024-2025 s'ouvre, notamment avec un concert que vous annoncez comme exceptionnel, de Yoon Sun-na. Avant que nous l'écoutions... dites-nous qui est cette Yoon Sun-na.
Alors, c'est pas facile à prononcer quand on fait de la radio, je sais. Yoon Sun-na, je me suis entraîné parce qu'elle nous a fait un petit cours. C'est une chanteuse coréenne, mais qui est maintenant devenue une artiste internationale. Je pense que c'est une des meilleures, sinon la meilleure vocaliste de jazz actuelle. Elle est en tournée internationale. Donc, pourquoi on cherchait un parrainage. Il y a eu Michel Petrucciani, il y a eu Paolo Fresu, et on se disait pour les 45 ans qui. Donc, c'est venu elle, pourquoi? D'abord parce qu'elle a chanté déjà deux fois au JAM.
Ah oui, c'est ça, elle vous connaît.
En 2005 et en 2011, donc elle se souvenait de ça et l'accueil a été très bon.
Un bon souvenir. Donc.
Un bon souvenir. Et puis, surtout, elle a fait ses études dans 4 écoles de musique différentes. Donc, elle a un lien aussi avec les écoles de musique. Donc, c'était impeccable. Et puis, le hasard des dates fait
Alors, ça se passe quand, ce concert
Le samedi 5 octobre. C'est en même temps le premier de la saison, après les deux concerts.
On a le temps de réserver entre le moment où cette émission sera diffusée et ce concert.
Et ça part vite.
Alors, on va plutôt entendre un peu, découvrir pour beaucoup d'entre nous, qui est Yoon Sun-na, musique.
Raindrops on roses and whiskers and kittens. bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of mine.
Laissons quelques secondes de silence avec l'atmosphère qu'elle a créée. Donc, bon, concert de prestige, de lancement, comme Jean-François Fontana nous l'a indiqué. Et sinon, quelques lumières, si ce n'est dans le détail du programme, un peu sur la coloration. Il y a beaucoup de diversité dans le programme de manière générale.
Principe,
mais
ouais.
Voilà, donc ce choix-là d'aller dans les différents registres du jazz, il se perpétue.
Il se perpétue, il est même accentué, puisqu'on va à toutes ce qu'on appelle les musiques cousines, hein, musique africaine, funk, etc., etc. Enfin, bon, il suffit de regarder le programme. On a, comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a 80 concerts par an. Pour le octobre, novembre, décembre, on force un peu la dose, on fera 30 concerts là, avec 5 coups de cœur.
Pour démarrer plein pot la saison.
Absolument, avec Sarah McCoy, avec Raoul Midon, avec des gens qui ont chacun un petit volet comme ça autour du jazz et qui sont vraiment des gros, gros rendez-vous.
Eh bien, aux auditeurs d'aller tendre l'oreille du côté du JAM. Alors, vous l'avez évoqué, donc, il n'y a pas que les concerts, il y a beaucoup de choses, notamment, on va revenir en 2 minutes ou 3 sur la formation. Vous avez dit jouer ensemble, notamment, mais comment se décompose les volets de la formation? Je sais qu'il y a un enseignement à l'année, il y a des masterclass, et puis voilà, en gros, que les auditeurs repèrent mieux et peut-être passent un coup de fil ou un coup de mail, c'est pour inscrire leurs enfants.
Alors d'abord, c'est pas que des enfants, on démarre à 8 ans, effectivement, il y a des classes d'ados, ça va jusqu'à plus soif, puisqu'on a souvent des retraités qui viennent en disant « tiens, je suis à la retraite, je voudrais reprendre un petit peu de saxophone ». La moyenne d'âge, c'est 22-23 ans, hein, à peu près, en amateur et en professionnel. On a plein de cycles différents en fonction du temps que peut ou que veut consacrer la personne qui s'inscrit. On a des classes d'ensemble et aussi des classes d'orchestre à thème, c'est-à-dire New Orleans, salsa, funk. On a même depuis quelques années maintenant une classe de hip-hop, hein, parce qu'il faut continuer à ouvrir l'oreille vers toutes les tendances et les demandes donc des musiciens qui arrivent. Que vous dire d'autre? C'est effectivement très très copieux. Hein, je pense que
les masterclass, comment ça se passe?
Alors les masterclass en général, elles sont couplées avec le passage d'un des artistes notre programme et qui accepte de venir l'après-midi avant de chanter le soir ou de jouer le soir, de venir exposer un petit peu sa vision de la musique.
Très bien. Alors j'ai dressé avec les documents que j'ai trouvés, qui ont été transmis, un grand nombre d'autres activités, on peut peut-être pas tous les citer. Quelles sont celles qui émergent, qui montrent qu'au-delà, à la fois, d'une part, des deux fonctions principales, initiales, les concerts et la formation, quelles sont les autres activités que le lieu organise ou, en tout cas, accueille?
Les activités, elles sont venues au fur et à mesure des années, des idées qui... D'abord, on parlait de l'école, donc les inscriptions sont encore possibles. Donc, il suffit d'aller sur le site ou de téléphoner au JAM en fonction de ce qu'on a envie de faire. Hein. Ça va depuis le cours particulier jusqu'au, on l'a dit, aux classes d'ensemble ou aux classes d'orchestre. Qu'est-ce qui est venu après? Des résidences, c'est-à-dire des groupes qui sont en création, en projet d'un spectacle pour la scène ou pour en préparation d'un album. Et donc, ils peuvent venir au jam pendant quelques temps, travailler, répéter pour pouvoir être au point. On a un tremplin jeune. L'idée n'est pas en soi très originale, mais le lauréat ou la lauréate de ce tremplin gagne un cycle complet pendant un an après, gratuit. Et puis devient artiste associé, donc on continue l'accompagnement.
C'est ça, pour mettre les pieds à l'étrier de musiciens dans le
pour
talent.
Pour des professionnels, oui.
Font qu'ils peuvent envisager une carrière.
Oui, mais de toute façon, nous, on ne compte plus les musiciens qui sont passés par le jam et qui essaiment un petit peu partout, et pas forcément dans des groupes de jazz d'ailleurs, mais qui sont passés par le jam.
Jeudi, je chante. Qu'est-ce
Alors,
que c'est
jeudi, je chante. D'abord, le jeudi, donc, c'est jam découverte. Hein, ouais. C'est ouvert à ce qu'on appelle les groupes en émergence. C'est gratuit. Donc, ça permet de venir. La programmation est volontairement extrêmement éclectique. Donc, ça permet de venir.
Il
faut s'ouvrir l'oreille.
Voilà.
Et si ça ne vous plaît pas, ben, vous n'avez pas payé. Donc, vous pouvez repartir tout de suite et passer à autre chose.
Cette souplesse, je dirais, cette facilité.
Voilà. Et le jeudi, je chante, c'est depuis 2 ans maintenant, ça a été fait sur la proposition de certains élèves qui avaient leur projet personnel et qui regroupent en une seule soirée le projet de 4-5 élèves et qui viennent présenter leurs œuvres, ce qu'ils ont en préparation. Et on va relancer aussi cette année, ce qui est une vieille habitude des clubs de jazz, c'est-à-dire la scène ouverte, oui. Le jazz club, mais comme la scène ouverte, quelquefois...
Le
bœuf, il faut quand même le cadrer. Hein, le jazz, c'est le principe. C'est on improvise, mais sur un thème qui a été très travaillé.
Voilà, bien sûr.
C'est exactement la même chose.
C'est pas porte ouverte.
Voilà. Et donc, on va recommencer 2-3 fois dans l'année avec un groupe qui sera en première partie et qui invitera des musiciens pour venir faire un bœuf.
Alors, je continue dans les choses qui pourraient être intéressantes. Paillotes de jam, alors ?
Alors, les paillotes, ça, c'était l'idée au départ très, très problématique, c'est-à-dire le mois de mai, c'est compliqué parce que les étudiants passent leurs examens ou ils sont déjà partis, ils commencent à faire beau, ils vont à la plage, donc ils ne vont plus au concert, ils n'ont pas envie de s'enfermer.
Donc, une déperdition de nombreux spectateurs.
Oui. Donc, maintenant, pendant 8 soirées de mi-mai à mi-juin à peu près, le jeudi et le vendredi, on ouvre le jardin, puisqu'on a la chance d'avoir un jardin, et on a 3 concerts, 3 groupes différents par soir, 2 dans la salle, mais toute la soirée, on a accès au jardin. Il y a un premier concert en acoustique, enfin, très agréable, côté apéritif, à 20h, et puis ensuite,
concert
jusqu'à plus soif.
Ou apéritif-concert.
Il y a une petite restauration, oui.
On continue. Jam hors les murs.
Ça, c'est l'exemple. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire nous, on forme des musiciens, où il y a des musiciens, on a des classes d'ensemble, des classes d'orchestre. Oui, d'accord, mais ce sont des groupes qui se forment, qui sont en général coachés par les professeurs du jam, et puis qui vont jouer à droite, à gauche, en particulier tout l'été, pendant les vacances, dès qu'ils peuvent, et qui vont participer à plein de manifestations. On a un partenariat avec le Jazz à Junas, par exemple, d'autres festivals. Oui, voilà.
Alors, vous rappelez quand même le numéro de téléphone et le mail peut-être du JAM pour les formations, les activités, les concerts, bien sûr.
Alors, le mail, c'est direction lejam.com. Ça, c'est pour les demandes très précises, techniques, sur « je veux faire ça, qu'est-ce que je peux faire ?» Le téléphone 04 67 58 30 30.
Très bien.
Voilà. Là aussi, on vous accueillera.
En espérant on a donné envie à un certain nombre d'auditeurs d'y voir de plus près. Et en fait, dernière question, je la pose souvent à mes invités. Quelles sont les idées reçues ou l'idée fausse qui se propagent, qui se promènent sur le jazz et qui ont le don de vous agacer et en tout cas qui vous conduisent à les évacuer ?
Alors... à évacuer les gens qui me posent la question.
Exactement.
Ou la question. en général, moi, ce qui m'agace quand même un peu, c'est que souvent quand je rencontre des gens, oui, vous êtes président du jam, vous êtes déjà venu, vous connaissez. Non, mais vous savez, moi, le jazz. Non, il n'est pas venu, mais moi, le jazz. Et puis alors, très très souvent, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de référence bloquée aux années 60, c'est-à-dire aux années du free jazz,
Free jazz, oui,
des moments très, effectivement, effectivement complexe, oui, musicalement, oui. Difficile, mais qui ont complètement, quasiment disparu, en tous les cas, qui ne sont qu'une seule filière de certains musiciens. Une période particulière, il y a plein de styles différents. Et donc, moi, je préfère dire maintenant, le jazz, moi, je ne sais pas le définir. Il y a plein de fusions, il y a plein de musiques qui se sont interpénétrées.
Des voix nouvelles.
Donc, oui. Je sais quand ça n'en est pas, je ne sais pas forcément le définir.
Alors, sur cette définition qui laissera à chacun la place pour l'interprétation, je prends fin cet entretien avec Jean-François Fontana, que je remercie.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Reine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Reine pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.